journal des sciences.
Et on commence ce journal des sciences avec une nouvelle étude qui vient de l'université de Harvard. La maltraitance des enfants laisserait des cicatrices moléculaires dans l'ADN des victimes.
C'est une étude qui fait grand bruit outre-Atlantique. Cette recherche s'est basée sur un petit échantillon, sur 32 hommes. 17 d'entre eux ont déclaré avoir été victimes de violences durant leur enfance et 2 d'abus sexuels. L'ADN des échantillons de leur sperme ont été analysés et comparés. Les scientifiques ont examiné un processus chimique appelé méthylation. Ils ont trouvé des différences notables qui semblent distinguer les victimes des non-victimes. Les marques de méthylation sur l'ADN, c'est ça ce qu'on appelle cicatrice moléculaire. La méthylation agit comme un variateur sur les gènes. Andrea Roberts est spécialiste des troubles traumatiques à l'université d'Harvard. Elle a dirigé cette étude.
Comment cela est-il possible? Eh bien, c'est une excellente question. Nous savons que les gens qui ont subi des traumatismes ont des risques de développer plus tard des problèmes mentaux et physiques, ce qui inclut maladies cardiovasculaires et maladies immunitaires. La question qui se pose alors est de savoir comment ce traumatisme peut passer sous la peau pour affecter la biologie même d'un individu. Là, un échantillon d'hommes s'est porté volontaire pour donner leur sperme, ce qui nous a permis d'examiner les marqueurs génétiques présents. En nous focalisant sur certains gènes, nous en avons trouvé un qui était lié à la fonction immunitaire et une poignée d'autres liés au fonctionnement cérébral. Et il se trouve que le marquage génétique était différent sur ces deux types de gènes. Il existe plusieurs façons de contrôler l'expression d'un gène, et nous pensons que ces différentes façons interagissent ensemble. La méthylation est une des possibilités, et c'est ce que nous avons étudié. Il se peut aussi que des histones soient modifiées, et il y a encore d'autres mécanismes biologiques régulatoires qui peuvent jouer. Nous ne comprenons pas vraiment comment la méthylation de l'ADN peut passer dans un ovule. Nous savons que cela arrive, mais la majorité des groupements méthyl ne restent pas. Ici, nous avons étudié un mince échantillon de personnes. C'est une petite étude. Nous n'avons observé que 32 hommes. La prochaine étape sera donc de reproduire cela à une plus grande échelle.
Voilà, effectivement, 32 hommes, on le sait, c'est une cohorte très limitée. Les auteurs, comme on vient de l'entendre, prennent eux-mêmes des précautions, ce qui n'empêche que c'est un pas important dans la recherche autour de cette méthylation et des principes épigénétiques.
Oui, c'est considéré comme une étude pilote même. Donc là, on observe une corrélation entre un changement épigénétique et un traumatisme. Alors, pour approfondir l'étude, il faudrait un plus grand échantillonnage, comme le disait la chercheuse. Il faut aussi prendre en compte les effets annexes, tels que les modes de vie de ces individus qui auraient pu influencer ces marques épigénétiques. Rappelons que dès le développement embryonnaire, l'épigénome est naturellement modifié au cours de nos vies. L'influence de nos conditions de vie ou de notre environnement sur l'épigénome, ce sont des pistes de recherche qui ne sont pas encore très claires à l'heure actuelle. On écoute le contrepoint de Claire Rougeol, épigénéticienne et directrice de recherche au CNRS.
La particularité de l'étude aussi, c'est de regarder ces cicatrices au niveau du sperme. Donc évidemment, avec les conséquences qu'on pourrait imaginer que ce traumatisme pourrait être, ou en tout cas ces cicatrices pourraient être transmises à la génération suivante. Donc ça, c'est une question brûlante dans le domaine de l'épigénétique. C'est là qu'il faut être extrêmement prudent. Et de façon biologiquement très intéressante, est-ce que notre mode de vie laisse des cicatrices chimiques sur notre ADN des années après l'exposition à divers constituants? Et c'est quelque chose qui suscite beaucoup d'intérêt, qui a été démontré dans certaines espèces, chez des plantes, chez des vers, chez l'homme, chez les mammifères en général. C'est la raison pour laquelle c'est assez controversé, c'est qu'on sait que les marques génétiques qui s'installent dans notre ADN, en particulier au niveau de nos cellules sexuelles, sont amenées à être totalement, ou en tout cas quasi totalement nettoyées au moment de la fécondation, avant pour la préparation de la génération future, je dirais. Donc c'est pour ça que se pose réellement la question de qu'est-ce qui peut être transmis au cours des générations dans la mesure où il y a un grand nettoyage qui est fait justement pour éviter l'accumulation de ces cicatrices.
En bref, maintenant, après une commission d'enquête scientifique, le CNRS a sanctionné 2 de ses directeurs de recherche, Patrick Dunoyer et Olivier Voinet, pour méconduite scientifique.
Oui, par méconduite scientifique, on entend un manque d'intégrité scientifique, une fraude, un plagiat ou un trucage. Dans les dernières publications de Patrick Dunoyer et Olivier Voinet, l'enquête a révélé des anomalies, des manipulations d'images. Olivier Voinet avait déjà été sanctionné il y a 2 ans.
On en sait un peu plus sur le trou de 2 mm qui a été découvert en août dans la coque de Soyouz, le vaisseau actuellement amarré à la Station Spatiale Internationale. spatiale.
La commission d'enquête vient d'écarter la piste du défaut de fabrication. Roscosmos, l'agence spatiale russe, soupçonne les États-Unis d'un acte de sabotage à coups de perceuse. La NASA a démenti jeudi. Le dossier reste ouvert et une sortie dans l'espace est prévue en novembre pour collecter plus d'informations.
Deuxième sujet cette semaine dans le journal des sciences. En Australie, des scientifiques du Hudson Institute de Melbourne viennent de publier une étude selon laquelle il y aurait des prédispositions génétiques à la transidentité.
Et c'est la plus grande étude mondiale, enfin c'est l'étude la plus grande qui a été réalisée à ce sujet. Et pour cette étude génomique, l'équipe australienne a mobilisé 380 femmes transgenres et a comparé leur ADN à celui de 344 hommes témoins pour observer les variantes génétiques. Les résultats suggèrent que les raisons des conflits personnels sur l'identité de genre pourraient résider dans l'ADN de chacun. Alors il faut bien employer le conditionnel, parce que cette étude, ce n'est qu'un premier éclairage de ce phénomène. Pour rappel, la dysphorie de genre concerne 5 hommes sur 1000 et 3 femmes sur 1000, donc ce n'est pas un phénomène exceptionnel. Ségolène Aimé est généticienne et directrice de recherche à l'INSERM. Elle nous explique la particularité de cette étude et de ses résultats.
On savait aussi que la génétique jouait. Parce que on a étudié le phénomène de transgenre chez les jumeaux. Et quand les jumeaux sont monozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont le même génome a priori au départ, eh bien, quand il y en a un qui est transgenre, il y a 30% de chance ou de risque, comme on veut, que l'autre le soit aussi. Donc c'est pas complètement déterminé par la génétique, mais ça l'est en partie. C'est la grande puissance de cette étude qui a par ailleurs été investiguée des gènes qu'on n'avait pas regardé pour la plupart jusqu'à présent, 12 gènes, qui sont des gènes qu'on sait forcément associés à ce qu'on appelle le système de signalisation des hormones sexuelles. Et ils ont comparé certains des variants qu'ils ont trouvés, par exemple, sont aussi à l'origine d'une diminution de la minéralisation des os. Ça, c'est quelque chose qui est connu comme étant plutôt associé au sexe féminin. Un des gène qui a été étudié, lié au risque de cancer de la prostate, et là donc le risque serait diminué avec ce variant qu'ils ont. Donc tout ça fait sens, c'est-à-dire que ça montre que tous ces petits éléments sont bien liés à l'identité féminine biologique. Mais ce qui est certain, c'est que ces petits effets cumulés peuvent probablement, s'ils sont en grand nombre, peuvent faire basculer un mécanisme. Chaque petit défaut n'est pas significatif en soi et ne suffit pas, mais tous ensemble, à la fin, ça peut faire basculer dans cette anomalie de l'assignement du sexe psychologique.
En bref, les orques seraient en grand danger d'extinction selon une étude parue cette semaine dans la revue Science.
Oui, les orques, la moitié des orques risquent de disparaître d'ici 30 à 40 ans. En cause, les PCB, les polychlorobiphényles.
On avait parié et je viens de gagner mon pari, à vous.
Donc c'est cette substance, c'est impossible à dire, cette substance, les PCB, qui est une substance extrêmement polluante que l'on trouve dans le plastique, l'huile ou la peinture. C'est si polluant que dans la plupart des pays, sa production est interdite depuis 2001. Reste que les PCB sont encore très présents dans nos océans via les déchets plastiques et que les orques en absorbent massivement.
On fait un petit résumé de la semaine des Nobel scientifiques, Natacha.
Alors cette année, le prix Nobel de médecine a été remis à l'américain James Ellison et au japonais Tatsuko Honjo pour leurs travaux sur l'immunité anticancéreuse. Le Nobel de physique a été remis à l'américain Arthur Ashkin, au français Gérard Mourou et à la canadienne Donna Strickland, son binôme. C'est leur recherche sur le laser qui a été récompensée. Le Nobel de chimie a récompensé le britannique Gregory Wyant, l'américaine Frances Arnold et son compatriote George Smith. Leurs travaux portent sur les enzymes et les anticorps. On peut saluer cette année l'effort de féminisation avec deux lauréates scientifiques. L'Académie des Nobel était encore très critiquée l'an dernier pour l'absence totale des femmes dans sa sélection.
Voilà, puis si vous voulez entendre le prix Nobel et sa réaction, nous l'avions eu au téléphone dans l'émission de mardi dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Un mot également pour vous dire qu'on vient de retrouver dans la bibliothèque de la Royal Society à Londres la lettre historique de Galilée que l'on croyait perdue à tout jamais.
Oui, c'est la lettre dans laquelle l'astronome dénonce la doctrine de l'Église selon laquelle le Soleil est en orbite autour de la Terre. C'est la lettre originale et on y voit que Galilée lui-même a raturé et retouché ses propos. Il en a atténué certains afin de ne pas froisser l'Inquisition. Il y dit que la recherche scientifique est incompatible avec la Bible. Ce texte de 1613 est considéré comme l'un des premiers manifestes laïcs sur les libertés de la science.
Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre petite rubrique de science improbable, table cette semaine une étude des chercheurs de l'Institute of Technology du Massachusetts qui se sont interrogés sur ce qui distingue un humain et un robot lors de conversations à l'aveugle type test de Turing.
Voilà, alors ça a été réalisé avec 2000 volontaires, le test. Si vous deviez prouver que vous n'êtes pas un robot et que vous n'aviez droit qu'à un mot pour prouver que vous êtes bien humain, quel serait ce mot? Alors 47...
Laurent Genefort, question. Si vous deviez prouver avec un seul mot que vous n'êtes pas un robot.
Ah, je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral à ce niveau-là.
Un seul mot, un mot. Pour dire que vous n'êtes pas un robot, pour prouver que vous n'êtes pas un chatbot de Laurent Genefort qui simule...
Sur un mot, alors là, là j'avoue, je sèche.
Bon. Bon, alors, en tout cas, 47%.
Là, je suis mort.
En tout cas, les participants de cette étude se sont à 47% tournés vers l'émotion, hein, avec en première place le mot amour. Et alors, dans un second temps, amour, voilà, l'humain.
L'humain aime plus que le robot.
Pourquoi pas.
Mais attendez, c'est pas fini.
Alors, dans un second temps, hein, dans l'étude, on a montré aux participants plusieurs mots et on leur a demandé lequel était celui qui, à coup sûr, avait été prononcé par un humain. Et massivement, ils ont choisi le mot « caca ». Alors, ça a d'abord déconcerté les chercheurs, un peu comme vous.
Le niveau de cette émission va s'effondrer brutalement.
Non, mais... c'est le niveau de l'humanité qui s'effondre. Mais en fait, c'est pas idiot. Je me demande si j'aurais pas choisi ça aussi.
Et ben voilà, parce que tout simplement, ça fait sens, parce que caca, voilà, c'est un mot tabou.
Ça fait sens.
C'est un mot primaire et c'est aussi le signe d'un certain sens de l'humour. Donc, est-ce que chercher surtout...
Et puis de notre origine organique, tout bêtement.
Voilà aussi. Donc moi, en tout cas, voilà, amour et caca, des termes qui sont particulièrement fédérateurs pour l'espèce humaine. Je trouve ça réjouissant.
Voilà, résumé.
Faut juste pas mêler les deux.